voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Cinéma aujourd'hui avec un film qui nous embarque vers le sud de l'Égypte. Un film qui a fait sensation au Festival de Cannes. C'était en mai dernier. Il a raflé le prix du meilleur documentaire, L'œil d'or. Ça s'appelle Les filles du Nil et c'est sorti en salle mercredi dernier. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth. Bonjour à toutes et à tous.
Dans tous les cinémas du monde ce samedi, on revient aussi avec vous sur le palmarès du FESPACO, le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou qui s'est achevé voici une semaine.
Eh bien, le grand gagnant est le réalisateur burkinabé Dany Kouyaté qui remporte l'étalon d'or de Yeninga et également le prix du public pour Katanga, la danse des scorpions. Le réalisateur et producteur de 63 ans, déjà repéré au FESPACO 2001 avec Sia ou le rêve du Python, est bien prophète en son pays car c'est la première fois depuis 1997 et Gaston Caboret qu'un film burkinabé est sacré au festival panafricain. Tourné en noir et blanc et en langue morée, Katanga est une adaptation africaine de Macbeth, la tragédie de Shakespeare, soit l'histoire de la prise de pouvoir d'un village par un tyran. Le porte-parole du jury, Martin Zongo, précise que ce film a été choisi pour le caractère intemporel de sa cruciale thématique et la valorisation de son identité linguistique. L'étalon d'argent, le deuxième prix du festival, a été décerné au village à côté du paradis, du Somalien Mo Araoué, et l'étalon de bronze à la Zambienne Rungano Nyoni pour On Becoming a Guinea Fowl.
Voilà, Katanga de Dany Kouyaté, étalon d'or au FESPACO. Pas de date de sortie calée pour l'instant, mais voilà. On suit l'affaire pour vous. Tout à l'heure, dans le journal du cinéma, on parlera aussi de la Hongrie et du cinéma de propagande soutenu par le gouvernement de Viktor Orban et des Oscars, bien sûr. Mais avant, cap sur un village paisible du sud égyptien. Un village comme tant d'autres où prime tradition, soumission à la coutume et au patriarcat, jusqu'au jour où quelques jeunes filles décident de se tailler un espace de liberté en faisant du théâtre de rue. Une demi-douzaine d'adolescentes chargées à bloc qui ne mâchent pas leurs mots, quitte à ne pas plaire à tout le monde. Les filles du Nil, extrait. Un extrait des filles du Nil de Nadar Iyad et Eman El Amir. Et parmi ces filles, vous, Majda Massoud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un peu la meneuse de troupe. Hein. C'est votre voix qu'on entend, entre autres, dans cet extrait des filles du Nil. Et vous êtes filmée par, je le disais, Nadar Iyad et Eman El Amir. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et bonjour à vous, Isis Plantier. Vous serez aujourd'hui la voix française de Majda, Nada et Eman.
Bonjour. Bonjour.
Alors, ce qu'on voit dans cet extrait, je vous parle à tous les trois, Eman, Nada et bien sûr Majda, on entend en fait la promotion du nouveau spectacle de la troupe. Donc, c'est quelque chose qui est entre le théâtre de rue et le happening, puisque évidemment, les passants sont interpellés. Comment on peut définir cette forme de théâtre ?
Je pense que c'est un mix entre beaucoup de choses. Je pense que c'est un mix entre
Je pense que cette forme de théâtre, c'est un mélange de plusieurs arts. On a le théâtre, la danse, le folklore égyptien qui est très présent. Et c'est une vraie manifestation à la base de leur expression, de leur émotion et un vrai espace de liberté pour elles. Donc, elles n'ont pas fait d'études de théâtre et spontanément, elles ont essayé dans cet espace d'exprimer avec tout ce qu'elles ont comme acquis, folklorique, comme j'ai dit, d'exprimer ses pensées et ses émotions. Et c'est toujours interactif avec le public et c'est très percutant.
Majda Massoud, vous êtes un peu la meneuse de troupe, de cette troupe du Panorama Barsha. Est-ce que c'est vous qui l'avez créée ou est-ce que c'était une troupe qui existait déjà avant ?
هي الفرقة تأسست سنة 2011 تقريبا صاحبة الفكرة يوستينا سمير.
Non, ce n'est pas moi qui a fondé cette troupe. La troupe a été fondée en 2011 par Yustina Samir. Moi, j'ai rejoint la troupe à l'âge de 12 ans. Et c'est elle qui m'a formée. Et c'est après, petit à petit, il y a eu, c'est vrai, ce mouvement un peu où j'étais la leaduse du groupe, mes acolytes qui avaient le même âge que moi. Et c'était vraiment un lieu où on posait tous nos questionnements du monde et également nos problèmes et nos émotions. On les exposait d'une manière un peu différente. On voulait sensibiliser les femmes de nos villages d'une manière assez originale. Et c'est pour ça qu'on va les voir, leur poser des questions et rentrer en interaction avec elles. Je vois que cet espace de liberté qu'on a, c'est une vraie thérapie pour nous, parce que vraiment, après chaque spectacle, on se sent soulagé et ça nous change même notre manière de voir les choses et de prendre des décisions dans nos propres vies.
Nadar Yad et Ayman El Amir, comment est-ce que vous êtes tombés, comment vous avez découvert cette troupe d'un petit village du sud égyptien? J'imagine que vous vivez au Caire. Enfin, comment ça s'est fait? C'est quand même assez spécifique, j'imagine que ça n'existe pas partout.
Moi et Ayman, entre 2012 et 2016, on travaillait pour des institutions féministes qui venaient à l'aide et le soutien des femmes dans les zones reculées de l'Égypte. Donc, ce qui nous a amené à voyager énormément et aller de village en village. Et c'était en 2016 Panorama Barsha présentait leur spectacle dans un village voisin et on est tombé amoureux dès la première seconde. C'était un vrai miracle pour nous, cette ténacité, ce courage transgressif dans la rue. On a noué une relation d'amitié au départ et on allait de temps en temps leur rendre visite dans le village. Jusqu'en 2018, on a eu l'idée de leur projeter notre premier film, moi et Ayman. Et elles étaient extrêmement intriguées par la présence de l'acteur face à la caméra. Et de là, c'est née l'idée de pourquoi pas faire un film sur leur théâtre et leur art. Et c'était le déclic qui a suivi 4 ans de tournage après.
Et le déclic et ces 4 années de tournage, on aura l'occasion d'en reparler parce que 4 ans, c'est court, mais c'est quand même assez long pour faire basculer toute une vie. Donc, on va en parler tout à l'heure. Juste après ce titre, je suis Mali, M, Toumani et Sidiki Diabaté.
Allongé seul sur mon lit, j'ai le mal du pays. J'ai le cœur qui s'entête quand j'ai l'âme au Mali. C'est comme un mal de tête, une mélancolie qui me dit... Je suis Mali. Je suis Mali. Je suis Mali. Je suis Mali. Allongé seul sur mon lit, j'ai le corps à Paris, mais j'ai l'âme au Mali et le cœur ébloui dans l'infini Sahel. Que ta lumière est belle. chant solitaire pour toucher ta magie. Noir ou blanche, qu'importe, le mélange est inouï, vu d'ici. Je suis Mali,
Bissassi, Mali, Bissassi.
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 Je suis Mali.
Bien sûr, RFI dans tous les cinémas du monde pour parler des filles du Nil, documentaire qui a gagné le grand prix L'œil d'or à Cannes. Donc nous sommes en studio avec Majda Massoud, Nada Riad et Ayman El Amir. Alors vous nous expliquiez tout à l'heure que ce tournage a duré 4 ans et surtout que c'est après avoir vu l'un de vos films que les filles du Barcha Panorama vous ont demandé de travailler avec vous. En gros, elles vous ont demandé d'être filmées, c'est ça ?
الموضوع جاء بشكل اورجانيك وبشكل تلقائي اعتقد لان احنا قبل ما نبتدي تصوير قبل ما
تكلمنا فكره الفيلم cette idée de film et ce choix c'était vraiment très organique et très spontané. Comme j'ai dit, on leur a projeté notre premier documentaire que moi et Nada on était réalisateurs mais également on jouait dans notre on était face caméra. Et elles étaient fascinées par ce fait de se dire « on s'exprime dans la rue, pourquoi pas face caméra ?» Et pour nous, c'était un choix mutuel. Elles nous ont demandé, mais nous aussi. Et on était très intriguées pour savoir si ces filles, avec tous leurs rêves, leurs révoltes, vont pouvoir résister à l'environnement très restrictif et très compliqué au niveau religieux, politique et social. Donc c'est pour cela aussi c'était le choix de tourner dans la durée parce qu'on voulait savoir ce passage de l'âge de l'adolescence vers l'âge adulte, est-ce qu'elles vont pouvoir continuer à résister et à continuer leurs rêves et leur art.
Majda Massoud, est-ce que vous vous êtes dit, vous êtes aussi pensé que la caméra pouvait être un appui de plus, une force lorsque, par exemple, vous allez dans la rue, parce qu'il en faut quand même du courage pour défier des villageois, des traditions, pour dénoncer, par exemple, les mariages forcés. Est-ce que, voilà, la caméra, c'était aussi une façon de vous aider ?
احنا صورنا في 4 سنين فكان في اول سنه كده احنا كنا مستغربين الكاميرا
déjà au départ par rapport à la présence de la caméra c'était assez compliqué là durant les 4 ans c'était un chemin de transformation de notre relation avec elle au départ la première année c'était assez compliqué. On était assez intimidés par cette caméra. On avait du mal à parler devant. Et petit à petit, on a noué une vraie relation où elle faisait partie de notre vie, de nous-mêmes. Et on a pu avoir une certaine intimité de s'exprimer face à la caméra. Ça, en ce qui nous concerne, nous, en tant que protagonistes. Après, la présence de la caméra dans la rue avec nous, ça a suscité beaucoup intriguer le public. Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils nous filment? Au départ, ils se regroupaient souvent autour de nous, parfois d'une manière aussi très critique. Cette critique, elle était toujours présente, mais ils étaient plus en interaction avec nous et ils voulaient voir ce qui allait se passer. Autre chose aussi, pour moi, cette caméra, c'était le gardien de nos rêves et de nos mémoires pour nous rappeler dans quelques années, est-ce qu'on sera toujours là au rendez-vous? Est-ce qu'on pourra concrétiser nos rêves? Et je la remercie infiniment pour ça.
Alors justement, on va écouter un passage des filles du Nil. On est dans la rue. Voilà, Majda, Heidi, Monica, les autres filles essaient de d'éveiller les consciences et en l'occurrence sur le mariage forcé.
Goli. انت جوزت وانت عندك كم سنة رد علي
مالك
ماليش دعوة طبعا مش عارف ترد علي انت مبسوطة في حياتك وانت متجوزة في السن ده
لا طبعا
برافو عليك طب ما تعرف تربي عيالك ازاي
مش عارف انا لسه صغير جوزت صغير ازاي اعرف اربيهم
عشان انت لسه طفلة
ايوه
ده انا نفسي في مرة واحدة احس ان انا بنت نفسي البس فستان من غير ما البس فوق جاكيت.
Majda Massoud, alors dans cet extrait, on voit vous interpeller un jeune homme qui ne veut pas répondre, et par contre une femme, on lui demande si elle est heureuse d'être mariée à son âge, et elle dit clairement que non, qu'elle a eu des enfants beaucoup trop jeunes. Comment ça se passe? Enfin, on imagine que la caméra vous protège un peu quand même, mais il y a des moments où les réactions des gens peuvent être très violente. Quelle est la réaction qui vous a le plus marqué lors d'une performance ?
في اول مره نزلنا الشارع كان كنا بنعمل عرض اسمه الفرح كان بيتكلم عن الجواز المبكر.
Mon premier souvenir très marquant, c'est la première fois que j'ai fait un spectacle dans la rue. Il avait pour titre « Mariage » et on parlait du mariage précoce et forcé. Et on a sollicité beaucoup l'avis des jeunes filles autour de nous. Et ça s'est très très mal passé. On a terminé par avoir des jets de cailloux et on nous a pris tous nos accessoires, on les a jetés. C'était assez violent et traumatisant pour nous. Après, on a essayé avec l'équipe de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. On a essayé de temps en temps d'y aller dans des endroits un peu plus sécurisés. Il y avait certaines zones où on ne pouvait pas y aller. Et on essayait de trouver le moyen d'interagir avec les autres sans que ça soit si transgressif pour eux. Donc on est allé voir les vieilles mamans du village pour nous apprendre les vieilles chansons et de les transformer les paroles et dire nos messages d'une manière assez détournée à travers le folklore et la musique. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir une interaction un peu plus pacifique de notre entourage sans que ça soit aussi violent.
Nada Riad et Ayman El Amir, on ne l'a pas encore dit, mais cette troupe de théâtre, enfin ces jeunes filles, il me semble toutes, mais vous allez me corriger éventuellement, elles sont issues de la minorité copte, elles sont chrétiennes dans ce grand pays musulman qu'est l'Égypte. Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il y a une tradition théâtrale ou peut-être une petite liberté pour les petites filles, enfin, puisqu'elles commencent, en tout cas Majda a commencé à 12 ans, hein, pour ces jeunes filles, pouvoir faire ainsi se produire dans une troupe de théâtre de rue.
الحقيقة القرية هي 50% مسيحيين أو أقباط و 50% مسلمين هي مش قرية قبطية بالكامل.
Le village de Barcha, c'est pas un village totalement copte. C'est 50% musulmans et 50% copte. C'est vrai que la tradition théâtrale elle existe beaucoup chez les coptes grâce aux présentations théâtrales au sein de l'église. C'est des pièces de théâtre bibliques qui racontent les histoires des saints, mais c'est limité à ce cadre. C'est pas du tout autorisé d'y aller au-delà de ça. Et ces filles, elles voulaient vraiment s'exprimer, parler d'elles-mêmes, pas parler de scènes bibliques. Donc, j'ai envie de dire, ce n'est pas lié à la religion, le conservatisme et les interdits. La présence de la fille dans la rue, c'est totalement interdit, peu importe musulman ou chrétien. La fille, elle va d'un point A à un point B, à la maison, à l'église, et point. c'est les garçons qui sont au café, jouent au foot, ils sont encore dans la rue. Donc, c'était vraiment une étape assez libératrice pour elle et qui questionnait plus les traditions que la religion.
Mais du coup, ça devait être, Nada et Eman, très difficile de filmer des scènes très intimes, enfin, même si on voit que certaines familles sont plus ouvertes que d'autres. Hein. Et parfois, vous filmez des scènes totalement incroyables, par exemple celle qu'on va écouter, donc c'est Monica. Donc, Monica, je la décris rapidement, elle a une voix d'homme, une voix très grave qui la complexe un peu, mais elle chante merveilleusement bien. Elle est au bord du fleuve, elle boit un jus d'orange avec son fiancé. Tout va bien jusqu'au moment où elle lui annonce qu'elle veut devenir chanteuse.
بالنسبة عشان انت صعيدية واحنا ناس غلابة على قد حالنا لما تمسك مثلا فلوس زي كده خليك بص مش شايفة قدام
انا لو خدت فلوس اول ما اعمل اغنية وخدت لها فلوس احط نصها في الكنيسة ونصهم لأهلي ونصهم اجيبهم حاضر
بعد الفرح الواحد هيعمل ايه انت حبيبتي هتقعدي في البيت
ومن قالك ومن انت وعد لي بيها
تعيش وتخلفي كده اولاد وتربي
بس ما انا عايش ان انا
ايوه وتقعد الست بيه
بس
يا غنيه انا في حريم عندنا في البلد تطلع وتغني ده انا سامح لك في فتره الخطب ونص
بس انا بعد الجوز ده
كله بعد الجوز ده كله هو قلت واحد
وما الوعد اللي كنت متوعدني على فكرة احنا لما نروح على القاهرة هوديك مدينة الانتاج
مدينة الانتاج انا عشان اخش يعني مش لازم يكون واحد مخرج
ايوه احنا يعني هنروح عادي
انت عارفة مين من المخرجين
مش عارفة حد
طيب هتروح تقولها المدينة على باب مدينة الانتاج
يعني اخبط ويزعطون
اخبط يزعطوك مين يعني من المخرجين تعرفين مين اللي هيوصل
Alors là je résume rapidement c'est une très très longue scène un peu mi-chair mi-poisson c'est-à-dire elle lui annonce qu'elle veut créer une chaîne YouTube qu'elle veut devenir chanteuse et lui répond aucune épouse digne de ce nom n'est chanteuse profites-en tant qu'on est fiancé, sous-entendu, après le mariage, c'est fini. Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression de voir le patriarcat et une certaine, j'allais dire, logique perverse du patriarcat se mettre en marche. Entre autres, à la fin, quand il lui dit « ma femme ne chantera pas en public ». Et puis, il rigole, il lui dit « c'est une blague ». Et en fait, on sait très bien que c'est pas une blague, mais c'est juste que voilà, il a aussi envie de se marier avec elle et donc de ménager la chèvre et le chou.
على ما أعتقد بالنسبة لنا في الفيلم ككل كان مهم إن إحنا نستكشف الطرق المختلفة اللي الأبوية بتشتغل بيها لأن الصورة النمطية
Pour moi, le mécanisme du patriarcat dans la société était important qu'on l'exploite ici. On a toujours une idée très stéréotypée de ce que c'est le conservatisme et la présence de l'homme dans ce genre de société. Ici, ça se passe complètement différemment. Ça peut passer par la moquerie, comme le frère de Majda quand il lui dit qu'elle jamais y arrivera, ou par la scène de Monica avec son fiancé, où il blague avec elle, ou la scène aussi du père, où il y a un sentiment très amoureux, mais qui est très patriarcal en même temps. Donc pour nous, c'était important dans le film d'exploiter toute cette dynamique et représenter femme et homme face à cette attitude et cette tradition qui persiste malgré eux.
Majda Massoud, on vous voit évidemment beaucoup à l'image. Hein. Vous êtes un peu voilà, l'une des actrices et metteuses en scène et personnages que l'on suit et dont on a d'ailleurs envie de connaître l'avenir. On y reviendra peut-être, mais je voulais savoir comment votre entourage, vous avez dû demander l'autorisation de vos parents pour tourner dans ce film. Comment votre famille a réagi à ce film ?
زي ما قلت انه كان في البدايه ما كانش حد موافق على اللي احنا بنعمله حتى اهلي ما كانوش كانوا سايبيننا يعني
Au départ ma famille elle était totalement contre déjà la troupe et ma présence dans la rue avec. Mais il nous laissait faire malgré tout parce qu'il ne prenait pas vraiment au sérieux cette démarche. Pour eux, on était des gamines, laissez-les jouer dans la rue un peu jusqu'à leurs 18 ans. Au moment du mariage, tout ça est terminé. Quand il y a eu Nada et Ayman qui sont venus tourner, ils ont dit bah, pourquoi pas, voilà, continuer aussi, ne pas prendre au sérieux et on les laisse un peu s'amuser. Après, Nada et Ayman, ils ont resté des années. Et petit à petit, ils ont appris à connaître nos familles. Et ils étaient là des moments sans tourner et à participer à nos fêtes, à nos mariages. Donc, ils ont noué déjà une relation avec nos familles. Mais malgré tout, nos familles ne prenaient pas toujours au sérieux, mais ils leur ont permis de rentrer dans notre espace intime. Et ce qui a changé, c'est après, une fois que le film a été fait et est parti à Cannes, et le regard a complètement changé. Et c'est complètement transformé. Maintenant, ma famille, même mon frère, et c'est un de mes plus grands soutiens qui m'encourage énormément et qui pense à mon bonheur.
Et à la suite, peut-être, parce que dans le film, vous êtes sur le bord de partir au Caire.
Effectivement, ça fait un an que je suis partie au Caire. Je fais des études de théâtre dans l'école NAS qui appartient à l'organisme de jésuites. Et j'étudie tous les arts de théâtre de la rue, cirque, acrobate, et je suis très heureuse.
Nada, Riyad et Eman El Amir, c'est un film cruel, Les filles du Nil, parce que au cœur du film, il y a le temps, ce temps qui fait qu'une équipe et j'allais dire une troupe, mais c'est surtout une bande d'amis très unis, va finalement subir des pressions de plus en plus fortes et les liens d'amitié et de travail vont se distendre, comme on va l'entendre dans cet extrait.
حركة أي حركة من غير ما تفكر سب جسمك يعمل اللي هو عايز مشان يقف ما تفكريش يا هايدي وعم باللي بزمة
ما عايش وجعاني مجد مش قدر أمش
يعني وجعتك دلوقت لو تمشيت هتخف يلا تمش
لا مش أقدر بأمانة أنا ما قدرت أنميها أصلا من النهاردة مش قدرة حركة خالص الاثنين
طب حاولي تتمشى يعني تمشى على قد ما تقدر وما تفكرش في حاجة ما تفكرش في رجلك الوجعاك سيبي نفسك
مش قادرة طيب ها ما حاول
مش انا اقول لك انسي الوجع انسي ان رجلك تعباك
مش قادر هقعد
لما ده مش عايزة تعمليه وده مش عايزة تعمليه وده تعبانة وده مش هفكر وده مش قادر امال هنشتغل ازاي
Dans cet extrait, on entend une sorte de dispute, en tout cas de rapport très tendu entre vous et Heidi. Vous essayez de la faire travailler, vous lui dites « bouge sans réfléchir, laisse aller ton corps » et elle a très mal aux pieds. En fait, on comprend que c'est quelque chose de beaucoup plus grave qui se passe. C'est un peu la fin de la troupe.
هو ده مش أول مرة يحصل هو بيحصل كتير ما بيننا وكلنا كمان يعني كلنا بيعد علينا وقت كده بنحس إنه
sous la pression constante qu'on subit tous les jours ce genre de dispute est assez fréquent parce qu'il y a des moments il y a de baisse de morale il y a certains qui disent ah bah non on va pas continuer après on s'auto-encourage entre nous et on continue à persister c'est vrai que Heidi à un moment donné s'est un peu éloignée de la troupe, mais après Cannes et après la projection du film, elle est revenue, elle revient de temps en temps, pas d'une manière continue. Et comme on voit à la fin du film, il y a une nouvelle génération de filles plus jeunes qui sont là et qu'on continue à les former et elles participent activement dans la troupe. Donc la troupe, elle existe toujours.
En fait, Nada, Eman, bon, c'est la journée de la femme, donc je vais me permettre de citer la grande féministe américaine Gloria Steinem, mais ce qu'elle explique théoriquement fonctionne, opère à plein dans votre film, c'est-à-dire qu'on part d'une tranche d'âge, c'est-à-dire 13, 14, 15, 16 ans, où les garçons expérimentent un maximum de liberté et les filles, à l'inverse, voient leur liberté, la liberté qu'elles pouvaient avoir quand elles étaient enfants, disparaître totalement à l'orée, si je puis dire, du mariage. Et donc votre film montre littéralement ce que le patriarcat fait aux femmes et aux jeunes filles, il les fait disparaître.
يعني أنا متفق تماما لأن حقيقة إحنا في الفيلم كمان أعتقد أن أكبر خصم للبنات أو أكبر أنتاجنس للبنات
Oui, totalement. On peut dire que le plus grand ennemi de ces filles, c'est le temps qui passe et l'âge. Plus elles sont jeunes, elles sont libres, on ne prend pas au sérieux leur environnement, et plus elles grandissent, l'étau se resserre autour d'elles, et c'est pratiquement la fin d'une étape de vie libre. Donc le temps est un élément très masculin et très patriarcal.
Et du coup, ce film, Nada et Eman, il a permis un peu de desserrer l'étau. Bon, évidemment, il y a eu cette sélection à Cannes et cette exposition incroyable qui fait que Monica et Heidi, qu'on sent en visionnant le film, qu'elles sont, ça y est, prises au piège et presque enfermées à la maison. Là, ça leur a permis de libérer un peu les mailles du filet.
Bien sûr que ça a changé des choses. Déjà, il y a une bonne nouvelle. Heidi, après le film, elle a quitté son fiancé. C'est toujours la bonne nouvelle pour les spectateurs. Et pour moi, l'art ici est de continuer leur groupe. C'est pas une finalité. En fait, même s'il y a une partie des filles, elle a arrêté le théâtre. Certainement, les filles, il y a eu un moment donné où c'était un déclic pour elles et ça a changé quelque chose dans leur vie. Donc, même une fois qu'elles ont quitté la troupe, elles ont foncièrement changé. Et ce que nous, on voit autour de nous, ça a changé aussi leur regard du village. Cannes, bien sûr, a changé ça. Mais ça a donné envie et ça a donné la place à l'art. C'était inimaginable qu'une fille du village dise « j'ai envie de faire de théâtre ou danser ou chanter ». Actuellement, il y a beaucoup de filles qui viennent les voir et même des familles qui disent « pourquoi pas, prenez nos filles avec vous ». Donc il y a eu un changement et c'est le rôle de l'art de faire ces changements de mœurs progressifs, mais qui est là que par la finalité de l'art soi-même, mais pour la vie de tous les jours.
Nada et Eman, on n'a pas parlé du montage de ce film. Ça a dû être épique parce que 4 ans de tournage, ça veut dire des milliers d'heures de rush. Comment vous avez réussi à les mettre en forme ?
أعتقد أن مرحلة المونتاج بالنسبة لنا كانت يمكن أصعب من مرحلة التصوير بكثير لأن إحنا معنا هي التصوير كان تقريبا.
Le montage était l'étape la plus difficile. Tournage, c'était rien à côté. Bien sûr, à 4 ans de tournage, c'était environ 400 heures de rush. Et c'était un vrai défi pour moi et Nada. On avait 6 arcs narratifs pour 6 protagonistes qu'on suivait. Et on voulait le plus honnêtement possible et transparence exposer leurs rêves, leur vie et leur démarche. C'était très, très, très compliqué, cette construction. Heureusement, on a fait ce montage sur plusieurs étapes. Déjà, on a commencé avec un monteur égyptien où on est passé de 400 heures à 100 heures. C'était une grande, grande étape. Et après, on a fait un montage avec Véronique Laguarcego, monteuse française, qui a permis de resserrer vers 3 heures, où on avait 4 arcs narratifs principaux de 4 filles. Et après, la dernière étape, c'était moi et Nada, où on a essayé de passer d'environ 3 heures à 1h40, concentré sur 3 principales protagonistes dans le film.
Et donc, le film a eu la carrière qu'on connaît, donc prix du meilleur documentaire au Festival de Cannes, sorti dans de nombreux pays. En Égypte, qu'est-ce qui est possible? Est-ce qu'il y a beaucoup de salles de cinéma quand on sort du Caire? Est-ce qu'on peut quand même organiser des sortes de projections itinérantes? Vous disiez tout à l'heure, Ayman, que ça avait suscité beaucoup d'intérêt et d'émulation dans le village, mais ça pourrait se faire aussi, on peut rêver, hein, mais à l'échelle du pays.
أعتقد إن إحنا مهرجان كان ادينا بلاتفورم قدر يسبورت الفيلم خصوصا مع حصول الفيلم على جائزة قدر يعني.
Oui, bien sûr, le festival de Cannes et le prix nous a rendu beaucoup de visibilité. Et a suscité beaucoup d'intérêt pour nous en Égypte. Ça nous a permis aussi, déjà, le film a été projeté dans les salles au Caire et en Alexandrie, novembre dernier. C'était le premier film documentaire à être exploité commercialement en salle en Égypte. En Égypte, dans les salles, il y a que des films de grand public égyptiens ou les blockbusters américains qui sont diffusés. Donc c'était une première et c'était pour nous une ouverture pour présenter aussi les zones rurales sans les stéréotypes connus dans les films grand public égyptiens. Malheureusement, dans le sud de l'Égypte, il n'y a pas de salle de cinéma. Donc, même les familles, ils ont vu le film au Caire. Et nous, notre projet futur, c'est de pouvoir faire une tournée itinérante dans tous les villages du sud d'Égypte, accompagnés de la troupe, pour projeter le film.
Mais alors, vous nous tiendrez au courant, Nada, Aymar et Majda, et longue vie aux filles du Nil, merci à tous les trois, Majda Massoud, Nada Riyad, Ayman El Amir, merci.
Merci, thank you.
Merci beaucoup.
Merci, un grand bravo aussi, bien sûr, à Isis Plantier pour sa traduction. Les filles du Nil est sortie ce mercredi dans les salles françaises. Allez le voir, pas seulement parce que c'est le prix du meilleur documentaire à Cannes, mais parce que c'est un film unique sur des femmes qui créent leurs propres armes pour conquérir leur espace de liberté. Dans quelques minutes, le journal du cinéma de Sophie Torlotin, après ce titre, Réparer le monde de Léonie Pernet, c'est le choix d'Apolline Verlon. Et c'est le moment du journal du cinéma avec vous, Sophie. Et tout d'abord, les réactions contrastées selon les pays après les Oscars.
Oui, c'est un peu Jean qui rit et Jean qui grogne. Alors, ceux qui se réjouissent tout d'abord, du Brésil à la Lettonie. À Rio de Janeiro, plus de 70 000 spectateurs ont explosé de joie lors de l'annonce de l'Oscar du meilleur film étranger à Walter Salles pour « Je suis toujours là ». Une ferveur comparable à celle des soirées de Coupe du Monde a gagné les danseurs de samba qui paradaient dans le Sambodrome, car c'est la première fois qu'un Oscar échoit à un film brésilien, surtout donc pour ce film politique qui raconte l'histoire de Rubens Paiva, ex-député enlevé par des agents de la dictature en 1971. Le président Lula da Silva s'est dit fier d'être brésilien sur X.
Même fierté affichée par le président letton.
Oui, Edgar Rinkevics, après l'Oscar du meilleur film d'animation décerné à Flo de Gins Zilbalodis. C'est également la première fois que ce pays balte remporte le trophée. L'histoire sans parole d'un chat noir solitaire qui se lie d'amitié avec d'autres animaux dans un pays envahi par les flots a battu des records de récompenses avant de décrocher cette précieuse statuette. Le président Rinkevics a ensuite posté une photo de lui à côté d'une sculpture représentant le félin installé dans le centre de Riga.
Côté Israël, en revanche, le mécontentement est là.
Oui, le ministre israélien de la Culture, Miki Zohar, est furieux que le documentaire israélo-palestinien No Other Land ait remporté l'Oscar du meilleur documentaire. Tourné à Massafer Yatta, au sud de la Cisjordanie occupée par le palestinien Bazel Adra et l'israélien Yuval Abraham, ce film suit le jeune palestinien luttant contre ce que l'ONU qualifie de déplacement forcé des habitants des villages alentours. Mika Zohar parle d'un sabotage contre l'État d'Israël et qualifie l'attribution de l'Oscar de « triste moment pour le monde du cinéma ». Le ministre israélien y voit la justification d'une réforme en cours visant à garantir que les ressources publiques soient, je cite, « affectées à des œuvres qui s'adressent au public israélien et non à une industrie qui fait carrière en diffamant le pays à l'étranger ». Fin de citation. Or, les professionnels israéliens du cinéma considèrent que cette réforme est une tentative du gouvernement de faire taire toute voix dissidente en Israël.
Et on reste dans le même registre pour la fin de ce journal en Hongrie, où le Premier ministre souverainiste Viktor Orban, au pouvoir depuis 15 ans, mène une offensive dans tous les secteurs de la culture, y compris le cinéma. Dans ce petit pays de 9,5 millions d'habitants, les subventions de l'État sont la principale source de financement du 7e art. Or, aujourd'hui, le gouvernement finance essentiellement des grandes fresques historiques mettant en valeur l'héroïsme des Hongrois, donc on l'a compris, des films de propagande à très gros budget. Les films d'auteur, eux, sont privés de subventions. Malgré tout, l'année dernière, il y a eu plus de films d'auteur, 13 en tout, que d'œuvres de propagande. Et les blockbusters commandés par le gouvernement ne font pas vraiment recette. On écoute le reportage de notre correspondante à Budapest, Florence Labruyère.
C'est le film le plus cher jamais tourné en Hongrie. Il raconte la révolution hongroise contre les Autrichiens au XIXe siècle. Tourné par un conseiller en communication du Premier ministre Viktor Orban, cette fresque pharaonique, entièrement financée par l'État, a coûté 17 millions d'euros. Mais c'est loin d'être une réussite, estime le critique de cinéma George Baron.
Aujourd'hui, plus de 90% de l'argent public va à ces films, qui sont faits pour les politiciens, pas pour le public. Ils sont faits par des dilettantes, c'est de la propagande.
Ce blockbuster n'a fait que 164 000 entrées. En revanche, les cinéastes indépendants, qui tournent sans subvention avec des budgets dérisoires, voient leurs films plébiscités par le public. C'est le cas de La Leçon, premier long métrage de Balint Simler, qui a déjà fait 125 000 entrées. À travers la vie quotidienne dans une école, le cinéaste décrit le système éducatif hongrois, un système basé sur l'oppression.
I lived in the US. I came home when I was 9 years old.
Enfant, j'ai vécu aux États-Unis. J'avais 9 ans quand on est revenu en Hongrie. À l'école, je ne comprenais pas pourquoi c'était un problème que je parle et que je donne mon opinion. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais puni.
Dans le film, Yutsi, une jeune enseignante, veut changer les méthodes d'enseignement poussiéreuses. Mais ses collègues font tout pour l'en dissuader. À travers l'école, Balint Simler parle de la passivité des Hongrois face à un gouvernement autoritaire.
Le
gros problème ici, c'est que les gens sont apathiques et se taisent parce qu'ils ont peur. Peur de défendre leurs opinions et même de défendre celles de leurs amis.
Récompensé au Festival de Locarno, Balint Simler a aussi reçu le prix du meilleur premier long métrage au Festival de Budapest. Le réalisateur a tourné avec un tout petit budget de 200 000 euros. Comme de nombreux cinéastes, sa demande de subvention a été rejetée.
Le parti politique a full power over.
Le parti politique au pouvoir contrôle tout. Il place ses fidèles là où il y a de l'argent et ces gens distribuent les subventions aux amis du parti.
Sans subvention, les cinéastes hongrois s'entraident. Chacun travaille gratuitement pour les autres. Mais pour András Mui, président de l'Association des réalisateurs, cette situation ne peut pas durer.
Si l'État continue à se retirer du financement, la culture cinématographique va disparaître.
Sans l'aide de l'État, impossible d'avoir des subventions européennes et cela pousse les cinéastes hongrois à quitter le pays.
C'était un reportage à Budapest de notre correspondante Florence Labruyère. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin.
Et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation Apolline Verlon, qui a également choisi cette musique de fin, Measure of Joy d'Adrian Crowley.
It's funny, I never knew the true measure of joy. You, a girl called Truth, me, a boy from the island. I've wandered the lowlands and dry riverbeds with this harmony of bees buzzing in my head. Can you hear the blue jays cooing on the lawn? Those lovelorn songbirds, on and on. Oh, the frenzy of insects and all the buzzing things high above the rooftop. It's enough to make you sing. La 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 da 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 da. It's funny, I never knew the true measure of joy. You, a girl called Faith, me, a boy from the island.
Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
Vous avez raté la séance? Podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.